Voilà, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous qui, depuis 8 ans, est devenu désormais familier à beaucoup, habituellement le premier mardi de chaque mois. Et c'est une joie de retrouver un certain nombre de visages connus, un peu comme une famille qui se retrouve après l'été. Bienvenue donc pour cette 71e soirée d'éthique publique, la première de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris, en partenariat avec la revue Études. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu de réflexion et de débat. Nous savons que face aux enjeux souvent complexes dans les différentes réalités de nos vies, sociales, éthiques, politiques, professionnelles, internationales, ecclésiales, eh bien nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de nous éclairer mutuellement. Alors c'est un enjeu intellectuel et spirituel qui nous tient à cœur ici au Centre Sèvres, de prendre les moyens pour essayer de comprendre ce monde et nous tenir, autant que c'est possible, informés des questions qui traversent nos sociétés et qui concernent nos propres existences. Important aussi d'avoir des espaces de dialogue simples, mais où une parole personnelle, libre et respectueuse d'autrui est possible, pour essayer de percevoir comment, personnellement et collectivement, eh bien, il nous est possible de nous situer. Depuis plus de 4 ans maintenant, c'est constitué un réseau dans différents coins de France, un réseau qui ne cesse de grandir, d'amis de ces soirées en quelque sorte, autour d'une paroisse, d'une communauté religieuse, de la formation diocésaine permanente, des antennes régionales des semaines sociales et bien d'autres liens qui suivent ces rencontres en direct ou en retransmission quelques jours après. Dans la plupart des cas, ce n'est pas qu'un simple relais vidéo avec un public sur place, mais c'est l'occasion en chaque lieu de continuer le débat après la retransmission. Alors je ne résiste pas ce soir, puisque c'est la première de l'année, à saluer nos amis à Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Poitiers, Aix-en-Provence, Grenoble, Saint-Étienne, Perpignan, Rouen, Vannes, sans oublier Athènes. Et ce soir, je suis heureux d'accueillir une nouvelle ville qui nous rejoint. Bienvenue à nos amis de Niort. Alors les fidèles des mardis d'éthique, il y en a un certain nombre dans cette salle ce soir, le savent bien. Le programme des soirées n'est pas fixé de manière définitive à l'avance pour toute l'année. Il s'élabore au fur et à mesure des mois pour être mieux à l'écoute de ce qui bouge, de ce qui pose question dans l'actualité des jours, mais aussi au-delà de la rumeur des vagues de surface pour faire droit eh bien, à des questions de fond. Le mois prochain, le premier mardi tombant le jour férié de la Toussaint, notre soirée d'éthique publique aura lieu le mardi suivant, c'est-à-dire le mardi 8 novembre. Et nous nous intéresserons, ce n'est pas une grande surprise, aux enjeux politiques de cette année électorale en nous demandant quelle parole des chrétiens est possible dans le débat politique. Quelle parole des chrétiens est possible dans le débat politique ? Ce sera donc le mardi 8 novembre à 19h15. Je rappelle qu'il est possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres. Un dernier mot avant d'aborder le thème de ce soir pour vous inviter, si vous ne l'avez fait, à découvrir les propositions du Centre Sèvres cette année. À côté de différents parcours, des programmes des départements, des cours d'initiation ou bien de spécialisation, nous avons voulu plus particulièrement mettre en lumière 3 thématiques sur lesquelles il nous semble important d'apporter une aide à la réflexion. La première, bien, c'est précisément l'actualité électorale qui nous y invite, et parmi les nombreuses propositions qui, au centre, peuvent nourrir notre réflexion politique, je signale uniquement la série de 10 leçons de philosophie politique, 10 leçons de philosophie politique, dont la première leçon aura lieu demain soir à 19h30 et cette première leçon portera sur le thème de la démocratie et sera assurée par Pierre Manant. Donc demain à 19h30, il est possible de s'inscrire aux 10 leçons ou de ne s'inscrire qu'à une seule sur place. À côté de la politique, la deuxième thématique pour laquelle nous désirons donner des éléments de réflexion, c'est l'islam. Il nous semble fondamental de mieux connaître l'islam. Différents cours pour cela, ainsi qu'un cycle de conférences d'initiation en partenariat avec la revue Études, connaître l'islam, son histoire, sa réalité, ses enjeux. Première séance le samedi 5 novembre au matin. Enfin, nous n'oublions pas que 2017, c'est l'année de l'anniversaire de la réforme protestante. Invitation là aussi, à travers différentes propositions, à mieux connaître Luther, l'histoire de la réforme, les différentes églises protestantes et les enjeux du dialogue œcuménique. Alors bien sûr, ces propositions, toutes les autres, vous les trouvez dans le programme du Centre CEF qui est disponible à la sortie de cette salle ou que vous pouvez trouver sur le site internet du Centre CEF. Vous pouvez même vous inscrire en ligne. N'hésitez pas non plus évidemment à en parler autour de vous. Voilà, il est plus que temps de rentrer dans le thème de notre soirée, un sujet de rentrée, pourrait-on dire, puisqu'il touche à l'école et à notre système éducatif, sujet qui rejoint les réflexions des semaines sociales de France, avec qui nous sommes en partenariat ce soir, et je suis heureux d'accueillir Dominique Quignot, la présidente des semaines sociales, qui animera notre débat tout à l'heure. Les semaines sociales qui auront leur prochaine session à la Porte de la Villette à Paris les 19 et 20 novembre prochains. Et je crois que le thème porte précisément, Dominique, sur « Ensemble, l'éducation ».
Je voudrais simplement vous remercier de nous accueillir dans ce partenariat et je vous remercie d'être présent. C'est une sorte de coup d'envoi pour nous de la session à venir, avec ce sujet autour de la formation de la conscience, de la morale, qui est un sujet qui nous paraît très, très pertinent. Nous avons déjà eu une recherche en partenariat avec les Bernardins il y a quelques jours autour des finalités communes. Est-ce qu'on peut trouver des finalités communes entre les différentes composantes d'une société comme la société française ? Là, aujourd'hui, nous allons réfléchir à la possibilité d'enseigner la morale à tous, et voilà, je suis très, très heureuse d'écouter vos intervenants et je vous remercie encore de cet accueil.
Merci Dominique. Alors c'est vrai que nous faisons l'expérience que vivre ensemble en société suppose un socle commun de valeurs partagées, et nous savons que l'éducation est un lieu central d'apprentissage des règles de la vie en société. Aujourd'hui, les choses ne semblent plus aller de soi et on a parfois l'impression que des règles élémentaires n'ont pas été intégrées. La difficulté de la transmission, la diversité culturelle, l'individualisme, l'échec scolaire sont autant d'éléments parmi bien d'autres qui fragilisent ce socle. Alors, peut-on encore enseigner la morale à l'école ? Et d'ailleurs, de quoi parle-t-on quand on évoque ce terme de morale dans le contexte d'aujourd'hui ? Finalement, quelles sont les conditions de formation de la conscience ? Et à quelle source faire référence ? Peut-on former une conscience morale à l'école ? C'est le thème donc de notre soirée. Et pour répondre à ces questions, nous sommes heureux d'accueillir nos invités. D'abord, M. Paul Malartre, membre du Conseil des Semaines Sociales de France. Vous connaissez bien les enjeux éducatifs, puisque vous avez été d'abord enseignant durant plusieurs années, mais aussi durant de nombreuses années également secrétaire général de l'enseignement catholique. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Est-il encore possible d'éduquer ?», paru en 2007 aux éditions de l'Atelier, mais la question est toujours valable aujourd'hui. Vous nous aiderez, je dirais en quelque sorte, à planter le décor en précisant cette notion de morale à l'école qui a toute une histoire et le lien entre instruction et éducation. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous. Madame Antoinette Lecoq-Vallon, Vous êtes professeur de philosophie depuis 6 ans, je crois, dans l'enseignement public au lycée de Plaisir, dans les Yvelines. Et vous nous direz où vous voyez la place de la morale et de cette formation à la morale aujourd'hui à l'école, notamment qu'est-ce que disent les textes officiels sur ce point. Et à partir de votre propre expérience d'enseignante, vous nous montrerez ce que vous percevez comme limite et point positif de la situation actuelle. Merci beaucoup de votre présence. Enfin, André-Pierre Gauthier, à ma droite, vous êtes frère des écoles chrétiennes et vous enseignez les lettres classiques en collège et en lycée en Seine-Saint-Denis. Vous êtes notamment l'auteur, en 2015, d'un ouvrage intitulé « À l'école de la fraternité » aux éditions du CERF. Et à partir de votre expérience, vous allez essayer de nous montrer ce que vous percevez de l'originalité de l'école catholique et de l'importance du lien en matière d'enseignement de la morale entre le discours et la pratique. Voilà, les présentations sont faites. Il est temps de laisser la parole à nos invités. Un quart d'heure d'intervention chacun, environ, avant d'avoir, comme à l'habitude, le débat avec la salle, avec vous, en commençant donc par Paul Malartre. Voilà.
Bonsoir à chacune, à chacun. Il m'a été proposé, comme vous venez de le dire, de planter le décor. Avec peut-être un premier temps, rapidement, historique, qu'il m'a été également demandé, j'ai conscience que c'est sans doute au bénéfice de l'âge. Un deuxième temps pour dire quelle est cette vision de la morale à l'école, et je parlerai vraiment de l'école en général en France. Pour, dans un troisième temps, essayer de creuser, même rapidement, mais l'intérêt c'est que ça nous oblige, en préparant à aller à l'essentiel, essayer de répondre à la question, qu'entend-on par éveil de la conscience morale ? Personnellement, je préfère employer le mot éveil de la conscience morale plutôt que formation de la conscience morale. Mais rien que ça, ça mériterait un petit débat, pas forcément nécessaire ce soir. Dans un premier temps, je voudrais quand même dire que la notion de morale à l'école en France a suscité, depuis quelques dizaines d'années, un certain flottement. Quand on relit aujourd'hui les contenus des leçons quotidiennes de morale à l'époque de Jules Ferry, 1880, on est frappé par leur rigueur. Oui, c'est quelque chose. Chaque matin. L'enseignement de la morale à l'école était clairement affiché comme l'une des grandes responsabilités de ce que l'on nommait depuis peu l'école de la République. On peut faire remonter à la fin des années 60, suivez mon regard, un certain flottement sur le rôle et les missions de l'école. Le mot même de morale pouvait paraître désuet et se trouvait plutôt renvoyé à ce que l'on nomme la sphère du privé. Mais depuis quelques années, l'affaiblissement du rôle d'institution structurante, certains comportements nouveaux et parfois déroutants de jeunes, la montée de communautarisme et aujourd'hui les phénomènes de radicalisation et les attentats terroristes ont fait prendre conscience, presque brutalement, de l'urgence de repères pour tous par rapport aux notions du bien et du mal, du souhaitable, de l'intolérable. On pourrait presque dire que l'éducation nationale a réintroduit récemment la nécessité de la morale à l'école. Deuxième temps du propos, mais n'en est-on pas encore à une vision réductrice de la morale? Point d'interrogation. Pourquoi? On peut se poser la question. Cette réintroduction, j'ose le mot, s'est faite sous la pression des événements, mais aussi sous la pression largement constatée par les enseignants et les éducateurs de l'accélération des changements de génération d'élèves. Et les enseignants ajoutent tout de suite ici, et l'accélération des changements de génération de parents d'élèves. Mais on sent bien que pour des responsables de l'éducation nationale, les besoins ressentis de règles morales doivent être conciliés avec une certaine vision de la laïcité, souvent confondue avec la neutralité. Ainsi, l'enseignement de la morale est actuellement très centré, et on en comprend facilement les raisons conjoncturelles, sur l'apprivoisement des différences, en particulier culturelles et religieuses. On n'a sans doute jamais autant parlé de la nécessité de l'apprentissage du vivre ensemble, et si on n'en a sans doute jamais autant parlé, c'est parce que sans doute il n'y en a jamais eu autant besoin. On y ajoute les valeurs de la République à enseigner en morale. Mais, point de vue personnel, me semble-t-il, sans être toujours explicite sur le contenu de ces valeurs de la République. Ce qu'on dit, liberté, égalité, fraternité, c'est déjà tout un programme. Il y a de quoi faire de l'éducatif avec ces trois mots. Est-ce suffisant? Et j'arrive à me demander si on n'est pas un peu flottant, là aussi, sur les valeurs de la République, par crainte qu'un approfondissement des valeurs n'entraîne un risque de formatage ou, on l'entend quelquefois parmi les craintes exprimées, un retour à un obscurantisme quelque peu fantasmé. Nous nous demandons aussi si le concept quelque peu ambigu à notre avis, selon lequel l'école doit être un sanctuaire, ça peut paraître paradoxal qu'un ancien responsable d'enseignement catholique discute de ce mot, mais je le trouve en effet ambigu ici. Sanctuaire, est-ce que ça ne révèle pas la crainte d'une école qui serait trop ouverte aux grands débats et enjeux de société? Est-ce que ça ne révèle pas parfois le souhait, sans doute inconscient, d'une laïcité aseptisée? Je pense ici à ce que déclarait une proviseure au cours d'une émission de télévision à laquelle je participais. Et j'étais en train de dire qu'il paraissait impossible d'enseigner sans éduquer et d'éduquer sans proposer des repères, un horizon, des objectifs, des valeurs. Une proviseure de lycée me coupe la parole et me dit « Je ne suis pas d'accord avec vous ». Et elle dit, je l'ai retenu par cœur, je le trouvais significatif, Quand on entre au lycée, on laisse sa vie privée de côté. C'est-à-dire, vous voyez, je ne dis pas que son point de vue était représentatif, mais c'est éclairant. Vous employez le mot éducation, relié à l'enseignement, on peut vous répondre, attention, ne mélangez pas l'instruction et la vie privée. Pourquoi, pour ma part, je me dis qu'un enseignement moral, s'il est réintroduit seulement en raison de l'actualité, porte forcément en lui une vision marquée par les nécessités du moment et pas forcément une vision à la fois universelle et permanente de la morale comme aide de la construction de la personne et des relations entre les personnes. Troisième temps du propos, pas le plus facile à formuler en quelques phrases. Que peut-on entendre par éveil de la conscience morale? Déjà les mots. Les notions d'éveil et de conscience nous ouvrent d'emblée au-delà de la morale, vue comme un ensemble de règles à rappeler à l'école pour rendre possible la vie en société. C'est déjà pas mal. Mais permettre l'éveil de la conscience morale, c'est éduquer l'enfant, le jeune, au discernement par rapport aux enjeux et débats sociétaux, économiques, politiques, écologiques, spirituels. C'est dire qu'il ne faut pas faire de la morale à l'école une discipline à part ou un temps à part. C'est à la fois dans le quotidien de l'établissement scolaire et au cœur des disciplines scolaires que chaque enseignant et éducateur doit être éveilleur pour que la vie de l'établissement et les savoirs enseignés soient source de la formation humaine de jeunes déjà citoyens. Surtout, éveiller à la conscience morale, c'est contribuer à apporter des réponses à la quête de tout élève sur le sens de la vie, sur le sens de sa vie. Bien sûr, l'école ne peut pas tenir tous les rôles. Elle ne remplace ni la famille, ni les mouvements éducatifs de jeunes. Mais ce qui fait l'originalité de l'école, c'est d'accompagner le jeune dans sa quête de sens à partir du lieu de vie sociale qu'est l'école et à partir de la culture transmise et partagée. Lors des récentes JMJ à Cracovie, je cherchais comment conclure et je suis tombé sur cette phrase du pape François. Merci, pape François. Le pape François fut un éveilleur des consciences morales en s'adressant ainsi aux jeunes. Je cite le pape. « Dieu vient rompre nos fermetures. Il vient ouvrir les portes de nos vies, de nos regards. Dieu vient ouvrir, il s'adresse aux jeunes, tout ce qui t'enferme. Et c'est là peut-être la pointe de l'éveil à la conscience morale. Il veut te faire voir qu'avec toi, le monde peut être différent. Comment mieux dire que l'éveil de la conscience morale transforme la soumission et la solitude possible en engagement avec et pour les autres. Merci pour votre écoute.
Quel bonheur d'avoir des enseignants comme intervenants. Donc nous allons passer de ce recul un peu historique, mais qui est quand même arrivé très dans l'actualité, si j'ose dire, à la réalité de votre travail, madame qui est enseignante dans le public, enseignante en philo. Et donc, à vous de nous dire ce qu'aujourd'hui, vous, dans les textes, dans les programmes et dans la réalité de vos cours, qu'est-ce que vous dites de cette morale ou de cet éveil à la conscience morale? Merci.
Oui, je remercie Paul Malartre qui a très bien préparé le terrain à ce que je comptais dire. Ça va s'articuler parfaitement.
Merci.
Alors,
on en avait un petit peu parlé avant.
Il y avait des inconnus, il y avait des surprises.
Mais oui.
Alors, pour commencer, un premier point, pour essayer de poser sur quoi repose la formation d'une conscience morale, en particulier sur deux dimensions qui sont évidentes, mais qui sont absolument indissociables, une dimension théorique et une dimension pratique. Une dimension théorique parce que qui dit former une conscience dit faire prendre conscience, et donc faire prendre conscience aussi intellectuellement. C'est là toute la nécessité d'une réflexion intellectuelle, d'une réflexion théorique sur la morale, de la formation d'un esprit critique, de la formation du jugement, avec la détermination de valeurs, en précisant précisément leur contenu, de règles fondamentales, etc. On est ici dans le domaine de l'instruction, de la formation de l'intelligence, et on est en train ici de réfléchir. Mais la morale ne veut pas se contenter de réfléchir, puisque bien sûr il s'agit d'agir, et donc c'est l'aspect pratique, l'éducation proprement dite, où là il s'agit non seulement de réfléchir, mais d'apprendre un comportement moral, de l'exécuter, de le réaliser, de développer des habitudes morales, de respecter les règles, etc., de vivre ensemble. Ces deux dimensions, elles sont absolument interdépendantes. On n'applique plus volontiers des règles quand on les comprend. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de réfléchir aux règles que l'on respecte dans notre vie. Mais en même temps, pour réfléchir sur la morale, il faut en réalité déjà avoir intégré un certain nombre de minimums de moralité. Par exemple, rester assis, écouter ce que les autres ont à dire, s'interroger avec bienveillance, ne pas s'emporter, ne pas insulter. Toute cette dimension pratique, c'est vraiment la dimension éducative dès le plus jeune âge, à la maison comme à l'école. Donc on voit que la dimension théorique est indispensable pour former un jugement libre et pour former des adultes éclairés, mais elle doit s'appuyer aussi sur des évidences qui ont d'abord été intégrées par le comportement dès le plus jeune âge. Ces deux dimensions, théorique et pratique, sont bien évidemment présentes à l'école, au sens large, hein, de l'école jusqu'au lycée, avec une présence du théorique de plus en plus forte pendant les années de lycée. Et justement, cette présence théorique, on la remarque en particulier dans deux enseignements précis. L'enseignement moral et civique, qu'on appelle EMC, qui est tout nouveau, et la philosophie, bien entendu, en terminale, où on peut aborder ces questions à travers les notions du bac que sont la morale, le devoir, la liberté, le bonheur, autrui, la société, la culture, la religion, toutes ces notions du programme de terminale qui sont vraiment là pour réfléchir sur la morale en général. Alors prenons l'un après l'autre ces deux enseignements plus théoriques. L'enseignement moral et civique, c'est le nouveau nom donné à l'éducation civique, juridique et sociale, donc le CJS qu'on a eu il y a quelques années. En fait, il a été rebaptisé enseignement moral et civique à la suite des attentats de janvier 2015, hein, quand on a réfléchi à une nouvelle façon d'enseigner la morale à l'école. Le parcours scolaire des terroristes, effectivement, semblait montrer qu'il y avait eu une défaillance de l'école à ce niveau-là. Et il faut reconnaître que même s'il y a eu une réaction instantanée sur un événement d'actualité, il y a eu une véritable réflexion en amont sur la question de la morale à l'école. Et je suis allée voir les textes officiels sur le site du ministère pour regarder un peu ce qui avait été écrit sur la question. Je m'attendais à beaucoup de banalités et j'ai trouvé des choses très intéressantes. On voit vraiment qu'il y a eu, on a fait appel à des experts, à des philosophes, à des éducateurs pour essayer de creuser cette question. Et les textes qui sont disponibles sont très complets. Ils mettent vraiment en œuvre cette double dimension de l'enseignement moral et théorique et pratique. On cherche vraiment à y articuler la morale et la citoyenneté, avec une volonté de ne pas restreindre la morale à l'intime, à l'individuel, au psychologique ou au spirituel, mais vraiment de l'articuler à la question de la vie en société et de la vie citoyenne. Donc il me semble que là, il y a vraiment une, peut-être une nouveauté, je ne sais pas, mais en tout cas, une prise de conscience très intéressante dans les textes officiels. Alors, bon, je vous ai dit que le CJS avait été rebaptisé, mais on a quand même précisé et complété le programme. Les deux ou quatre thèmes qui étaient proposés en ECJS ont été complétés par des thèmes dont la dimension morale est plus nette en enseignement moral et civique, qui portent sur l'égalité, les discriminations, les enjeux de la société de l'information, la laïcité, la définition de la personne, etc. Les quatre dimensions qui sont proposées comme les objectifs de cette culture morale et civique, hein, comme l'appellent les textes officiels, sont aussi très intéressantes. Il s'agit de la formation d'une conscience morale, donc c'est vraiment dit tel quel, la compréhension du rôle de la règle et du droit, l'exercice du jugement critique et le sens de l'engagement. Et sur ce sens de l'engagement, il est fait beaucoup de propositions pour vraiment encourager les élèves à mettre en pratique leurs réflexions sur l'engagement et à s'engager eux-mêmes, alors dans un premier temps dans l'enceinte du lycée, via les instances démocratiques du lycée, et puis dans un deuxième temps, via des associations ou dans la vie publique, etc. Le programme, donc, et la méthode qui est proposée cherchent vraiment à articuler cette dimension théorique à la dimension pratique. Il y a des exercices de débat, il y a des exercices de résolution de conflits. On essaye d'apprendre vraiment à mettre en pratique la réflexion plus théorique sur les grands enjeux éthiques de notre société. Donc voilà, ça c'est pour tous l'aspect positif de cet enseignement moral et civique. Mais malgré tout, il y a une véritable difficulté qui est celle de la mise en œuvre de cet enseignement, qui est en théorie très bien pensé, puisqu'il s'agit d'une heure par semaine, je crois, qui est dévolue en général aux professeurs d'histoire-géographie par tradition, mais ça peut être le professeur de philosophie, ça peut être un professeur de lettres, de SVT, de sciences économiques et sociales ou de PS, peu importe. Et cette heure, comme elle est un peu gratuite, elle ne débouche pas sur un examen, sur une évaluation. Il y a d'une part un risque que les élèves s'en désintéressent un petit peu, et d'autre part le risque que le professeur en charge l'utilise aussi pour rattraper le programme, le retard de son programme, et que finalement, bon, les questions qu'il avait préparées vont passer un peu à la trappe. Ce n'est pas du tout un reproche fait au professeur, parce que bon, les contraintes du programme sont parfois bel et bien là, mais il se trouve que ça découle aussi d'une vraie difficulté pour les chefs d'établissement de bien répartir cet enseignement, puisqu'en fait, ils ont un vrai casse-tête chaque année qui est de répartir l'enveloppe d'heures que le rectorat leur accorde. Et un professeur en charge de cet enseignement, ça fait partie de son temps de travail, et au final, ça le cloisonne, c'est lui qui s'en occupe, donc ça cloisonne un peu les disciplines entre elles, et finalement, il n'y a pas vraiment de réflexion commune de l'ensemble de l'équipe éducative sur ce qu'on peut transmettre dans cet enseignement-là. Chaque professeur qui en est en charge s'en occupe dans son coin. On discute un peu éventuellement en salle des professeurs, mais il n'y a pas de projet collectif sur ce qu'on peut transmettre dans cet enseignement moral et civique. Et donc, on en est vraiment à ce problème éternel de l'écart entre une belle idée, de beaux principes, et puis les contraintes matérielles de la réalisation de cette belle idée dans sa réalisation. Donc, cette limite nous montre qu'il y a vraiment la nécessité d'une prise en charge globale de cet enseignement moral par l'ensemble de la communauté éducative, éventuellement en jouant sur l'interdisciplinarité, voire même parfois en formant et en valorisant les professeurs qui s'en chargent, puisque c'est un enseignement qu'ils n'ont pas vraiment préparé pendant leurs études. Même s'ils ont tous, bien sûr, quelque chose à dire sur la question, il se peut parfois que sur certains sujets de bioéthique, il faille avoir quand même un peu plus que simplement de vagues notions de morale. Alors, en philosophie, maintenant, on peut aussi approfondir cette question. Tout d'abord, en faisant réfléchir les élèves sur le problème de la liberté et de la volonté, et de la mise en pratique de la volonté, le passage de ce que je veux à ce que je fais, concrètement, et puis le problème de l'identification du bien et du mal, du fondement de la morale, de la relativité des mœurs, etc. Malheureusement, ce n'est qu'en fin de parcours, puisque nous n'avons les élèves qu'en terminale, Et nous nous heurtons parfois à des incompréhensions assez étonnantes sur la question de la morale. Pour vous donner un exemple vécu, lors de l'analyse d'un texte de Malebranche sur l'universalité de la raison, dans lequel Malebranche affirme que, de même que la raison mathématique est universelle, 2 plus 2 égale 4 pour un Chinois comme pour moi, de même, il y aurait des principes universels de la raison morale. Et il donne comme exemple « mieux vaut sauver la vie de son cocher que celle de son cheval ». Alors, pour essayer d'éviter les partisans de la vie animale et pour moderniser un peu l'exemple, j'avais transposé l'exemple en « est-ce qu'il vaut mieux sauver son chauffeur ou sa voiture ?». Et j'ai constaté que ce n'était pas du tout évident pour les élèves et que finalement la voiture valait peut-être mieux que le chauffeur, que l'évidence de la dignité de la vie humaine n'était pas du tout là. Alors, il y avait un peu de provocation de leur part, bien sûr, mais malgré tout, je voyais que les évidences premières, en fait, devaient aussi être retrouvées. Et l'enseignement de la philosophie peut permettre cela, en obligeant à une remise en question, en montrant les contradictions de l'opinion, en essayant de faire déboucher aussi cette réflexion sur une cohérence de vie. Mais en classe, nous en restons à l'interrogation théorique. Je ne fais pas de cours de pratique morale, ce n'est pas possible, on n'a pas le temps dans le programme. Et puis, on forme un examen qui est théorique. La limite de ces deux enseignements, donc de l'enseignement moral et civique et de la philosophie, nous oblige vraiment à envisager la formation d'une conscience morale de façon beaucoup plus large dans la vie scolaire en général et même hors scolaire. C'est mon dernier point. C'est vraiment l'exigence de l'ensemble du cadre scolaire pour cette formation morale et bien sûr la collaboration avec les parents. Bien sûr, il est nécessaire que les professeurs et tout le personnel administratif soient eux-mêmes exemplaires. C'est une évidence de le dire, mais ça ne l'est pas toujours pour ceux qui y travaillent. Donc c'est sûr que pour éveiller la conscience morale, si nous avons un comportement moral qui va les interroger, qui va les interpeller, eh bien, on a déjà fait un peu de travail. Dans la vie de l'établissement, le règlement intérieur, le respect des règles, les sanctions, la gestion des conflits, tout cela leur fait prendre conscience aussi de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Et enfin, bien sûr, la relation avec les parents est primordiale. Les parents, bien sûr, sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Il est évident que la formation de la conscience morale commence déjà à la maison, dès le plus jeune âge. Mais l'école aussi a son rôle à jouer en tant que les élèves y passent quasiment 5 jours par semaine et une grande partie de l'année. Et en particulier au collège et au lycée, on se rend compte que les professeurs connaissent presque mieux les élèves que leurs propres parents. Alors le problème de cette relation avec les parents, c'est qu'il y a bien souvent des accords, en particulier quand les repères culturels ne sont pas les mêmes, et que les professeurs se heurtent parfois à une forme de démission ou de défaillance des parents face à leurs adolescents en particulier. Et ils se heurtent aussi à une forme de méfiance des parents à l'égard de l'école, à l'égard de l'institution, à l'égard des professeurs qui essayent de faire leur travail. Et les parents se sentent parfois agressés, remis en cause quand on ose reprocher quelque chose à leurs enfants. Ce serait comme un reproche de l'éducation qu'ils ont donnée. Très souvent, quand on convoque des parents parce que leur enfant se drogue ou parce qu'il triche, en fait, les parents nient la réalité, ne veulent pas la voir ou prennent la défense de leur enfant. On a des parents qui disent « Oh, un joint de temps en temps, ça lui fait pas de mal, moi-même à la maison, ça m'arrive ». Et donc, forcément, nous, on essaye de transmettre des règles aux élèves, mais si les parents ne sont pas cohérents avec ce qu'on essaye de transmettre, on est vraiment bien embêtés. L'urgence, c'est donc de restaurer la bienveillance entre parents et professeurs, et personnel administratif, et la coopération. D'abord, en essayant de ne pas trop critiquer, alors ce que je viens de faire, mais c'est pour essayer d'avancer, les parents envers les professeurs comme les professeurs envers les parents, d'essayer vraiment de travailler ensemble. Et pour cela, il me semble qu'il y a deux pistes assez intéressantes qui se testent un petit peu de façon artisanale. La première, j'en ai entendu parler récemment, c'est la proposition, alors je crois surtout dans certaines écoles primaires, de formation pour les parents. Les parents étaient demandeurs, un père étant un peu en manque de repères sur l'éducation de leurs enfants. Au sein de l'école étaient proposées des conférences sur la communication bienveillante ou sur l'éducation. Et il me semble que là, on touche vraiment un point intéressant de la coopération autour du bien de l'enfant entre l'école et les parents. Et puis un autre exemple, c'est la concertation entre l'école et les parents pour ce qui concerne les sanctions. J'en ai lu un exemple aussi très intéressant dans les projets d'école Espérance Banlieue, pour montrer que la sanction n'est pas là pour brimer ou stigmatiser, mais pour faire grandir et pour permettre d'intégrer les règles. Le directeur fait venir les parents, décide avec eux de la sanction, et ensuite fait venir l'élève, et les parents sont derrière le bureau du directeur pour annoncer à leur enfant, avec le directeur, la sanction. Pour vraiment montrer que les parents et la direction et les professeurs font bloc face à l'enfant, alors non pas contre l'enfant, mais pour faire grandir l'enfant, et non pas qu'il y a d'un côté la famille et d'un côté l'école, et parce que sinon on se retrouve dans cette situation où les parents vont vouloir défendre leur enfant et ils ne vont pas accepter la sanction eux-mêmes. Donc il me semble que là il y a une piste très intéressante sans doute à essayer de mettre en œuvre dans le public, parce qu'on retrouverait justement cette bienveillance et cette coopération nécessaire. Il me semble qu'une sanction, pour être juste, elle doit être ferme, mais elle doit aussi être intelligente, c'est-à-dire adaptée au cas en question. Et les enfants sont malins, hein. Ils voient bien que même si une sanction n'est pas la même d'un cas à l'autre, si c'est justifié, si c'est expliqué, ils comprendront. Et c'est vraiment faire confiance à l'intelligence de nos élèves que de leur expliquer les choses, et c'est comme ça qu'on les fait grandir.
Merci beaucoup. Vous avez montré le fossé entre les textes et la réalité, et puis la difficulté de combiner théorie et pratique, et vous avez ouvert quelques pistes sur la fin de votre intervention. Maintenant, André-Pierre Gauthier va parler de son expérience à lui en établissement catholique, mais lui aussi, je crois, va nous parler de ce que nous a déjà dit Antoinette, de l'exemplarité nécessaire et de la mise en pratique cohérente, me semble-t-il.
Merci beaucoup. Et merci d'appuyer là où ça fait mal tout de suite. C'est-à-dire sur cet écart, cette limite dont parlait Antoinette, cette difficulté de la cohérence, qui est comme un préalable, une prise de conscience préalable à tout discours, aussi bien sur la formation morale, qui est notre sujet ce soir, mais par derrière, il y aurait aussi tout ce qui touche à l'évangélisation ou au caractère explicite de l'annonce en école catholique. Le problème à l'école, c'est qu'on y parle beaucoup. Et on y parle en s'imaginant que cette parole, un peu comme dans le texte de la Genèse, est performative. C'est-à-dire que le discours va former, que le discours suffit à former, que le discours est en fait l'arme de l'enseignant, aussi bien pour transmettre des savoirs disciplinaires que de transmettre des valeurs morales, que de transmettre pour certains Jésus-Christ. Et il est bon, sur ces questions très difficiles, de faire, comme l'a fait un petit peu notre ami Paul, un petit détour historique, parce qu'il m'est demandé ce soir d'évoquer l'école catholique, et je vais parler comme enseignant dans l'école catholique. Le petit discours historique est nécessaire pour se rappeler pourquoi un jour des hommes et des femmes ont décidé de faire de leur métier d'enseignant et d'éducateur une sorte de vocation, de réponse à un appel. Il faut se rappeler que dans ce lointain XVIIe siècle, ils ont répondu d'une manière très particulière à l'appel du service des jeunes en acceptant une assaise qui devrait être pour nous comme un chemin de conversion, c'est l'assaise de la parole pour donner toute sa place à un nouveau type de présence aux personnes. Et la cesse de l'urgence pour entrer dans le cheminement de la patience. C'est-à-dire qu'avant de parler de formation morale, avant de parler d'éveil, et le terme convient sans doute davantage, il faut se demander quels sont les préalables à tout cela dans une école catholique. Et je parle bien de l'école catholique. Car il y a des préalables, je vais les évoquer brièvement. Ces deux préalables, je le disais, c'est d'accepter qu'il y ait du premier, du second, le second n'étant jamais secondaire, bien sûr. Ce qui est second à l'école, c'est la transmission, quel que soit le contenu de cette transmission. Ce qui est second, c'est dans mon travail d'enseignant d'essayer de transmettre en français ou dans d'autres matières des contenus dont je pense qu'ils sont utiles à la construction de la personne du jeune. Il n'empêche, à l'école catholique, ce qui est premier, c'est la relation. C'est-à-dire cette présence réelle que, comme adulte, je choisis au quotidien du présent des jeunes. Je me plais à faire l'appel. Nous sommes entrés il y a un mois en classe et on commence à connaître les jeunes, bien sûr, enfin quelques-uns tout au moins, surtout ceux qui, dans les premiers cours, se sont fait distinguer. Donc cela, on les connaît bien. Mais il est bon toujours de faire l'appel et d'attendre que le jeune dise « présent ». Parce que ce n'est pas tant la présence du jeune qui importe que la présence de l'adulte. En fait, pour chacun d'entre nous, se poser la question de la formation morale du jeune, c'est se renvoyer la question de la formation continue de l'adulte. Est-ce que, comme adulte, comme personne, comme adulte communauté, c'est-à-dire comme institution, est-ce que nous acceptons de nous poser pour nous-mêmes cette question de la formation continue, cette fois-ci, à la morale? Et tant que cette question n'est pas posée, tant que nous n'acceptons pas d'entrer dans une relecture de nos pratiques, nous-mêmes comme adultes, qui pensons avoir acquis quelques valeurs ou vertus morales, tant que cette question-là n'est pas posée, il y a de grandes chances ou de grands risques pour que ce que nous allons tenter de transmettre aux jeunes en reste au stade du discours. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il faut que nous acceptions que le discours a moins de prise sur les jeunes quand il n'est pas porté par des adultes qui sont présents et qui incarnent quelque chose, une part de la cohérence de ce discours. Le premier point, donc, rendre comme un préalable à toute formation morale, rendre plus seconde la transmission des contenus et rendre première la présence des adultes. Cette présence, il faut le reconnaître, nous l'avons pour une part abandonnée. C'est-à-dire que si nous voulons réactiver la formation à l'éveil de la conscience morale, il faut permettre à ces jeunes dans nos établissements scolaires, ce qui se fait déjà mais qui demande à être amplifié, d'avoir le temps, la possibilité, le loisir, la chance, voire la grâce de rencontrer des adultes et non pas seulement de rencontrer des enseignants dans le cadre des cours disciplinaires. J'évoquais aussi la nécessaire assaise du passage de l'urgence à la patience. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 siècles? Il s'est passé qu'un beau jour, des hommes et des femmes, j'espère que les frères prêtres ici présents vont excuser ce petit propos, des hommes et des femmes ont compris que la parole enseignante, celle des prédications ou celle du catéchisme, ne suffisait plus à la formation de la personne du jeune. Et qu'il y avait dans ces prédication une sorte d'urgence, et il se trouve qu'aujourd'hui l'école a repris ce mauvais chemin de l'urgence, alors qu'il n'y a pas d'éveil à la conscience morale sans qu'il y ait le temps de la patience. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la pédagogie. Qu'est-ce que la pédagogie? C'est prendre le temps du discours alors que l'on pensait que la parole, dans une certaine urgence, allait pouvoir convaincre l'autre. Lorsque la parole se révèle plus fragile, et la parole est toujours fragile avec un jeune, la seule réponse possible, c'est le détour de la pédagogie, le détour de la patience. Alors, que redécouvre-t-on aujourd'hui, très directement au regard de cette formation à la conscience morale? Antoinette et Paul l'ont évoqué, c'est qu'il y a une véritable question de cohérence. C'est-à-dire que nous pouvons ajouter concept sur concept. Nous pouvons continuer de manier les concepts les plus beaux de notre tradition, et ceux de notre République sont de très beaux concepts. Ce serait oublier que le concept ne vaudra jamais le récit de vie. C'est-à-dire que ce que l'école catholique peut apporter aujourd'hui, c'est de se rappeler que toutes nos fondations, à commencer par la fondation évangélique, ce sont d'abord, avant des paroles, voire avant des concepts, des récits de vie d'hommes et de femmes qui se sont offerts, qui se sont proposés comme adultes et qui ont invité d'autres à les rejoindre sur ce chemin de vie. Autrement dit, éveiller à la conscience morale, me semble-t-il, en école catholique, suppose que des adultes, quel que soit leur nombre, acceptent de livrer quelque chose d'eux-mêmes, de se donner pour une part, de s'offrir pour une part, d'accepter de montrer pourquoi pas leur fragilité et leurs interrogations, pour aider ces jeunes eux-mêmes à s'accepter d'abord sur un chemin de croissance. Trop souvent, la formation morale risque de passer par des impératifs catégoriques, par des concepts que l'on va essayer d'imposer ou de faire partager, alors que nous le savons très bien, les choses les plus importantes, qu'il s'agisse de la morale ou de la religion, ne se satisferont pas de concepts, mais de passions, récits et d'expériences relues. Alors, aujourd'hui, éveiller à la conscience morale ne peut pas faire l'économie d'accepter, comme l'ont évoqué Paul et Antoinette, que s'il n'y a pas cohérence entre le quotidien de l'école, entre tous ces lieux au quotidien, tous ces interstices où peut se cacher de la violence, où peut se cacher de l'inégalité, où l'on peut négliger le bien commun, où l'on peut favoriser l'élitisme, la sélection, l'élection, tous ces lieux où l'on va laisser la part belle à celui qui fait la loi, le plus fort, le plus intelligent, celui qui manie le mieux la parole. Bref, si dans nos établissements scolaires, nous ne revisitons pas le quotidien de l'école, et cela passe, comme le disait Antoinette, d'un conseil de classe au conseil de discipline, cela passe aussi par le rendu des copies, par l'acceptation que le niveau d'un jeune n'est pas un niveau qui soit toujours le niveau de l'excellence. Cela passe par les mille petites choses du quotidien où l'adulte lui-même va devoir engager sa posture morale avant même d'engager un discours moral. Enfin, on ne peut pas, me semble-t-il, évoquer cette éveil à la conscience morale sans s'autoriser ce soir à reparler de ce qui fait le cœur de l'école catholique pour ces années présentes et à venir, c'est-à-dire le souci d'une école de la fraternité. Le souci d'une école où, justement, avant de parler des valeurs morales, on va essayer modestement et souvent, j'allais dire péniblement, d'inscrire tout le rayonnement de la fraternité dans le lien quotidien que nous avons à tisser entre nous adultes et avec les jeunes. Pas d'éducation, me semble-t-il, à l'éveil moral sans oser, de la part des adultes, ce chemin de fraternité, c'est-à-dire ce risque qu'il nous faut prendre de changer pour le bien des jeunes nos systèmes de notation, nos systèmes d'évaluation, nos systèmes d'orientation et accepter, comme nous le redisons à longueur de temps quand nous sommes dans des lieux de théologie ou dans des lieux de catéchèse, accepter qu'établir la confiance avec ces jeunes est primordial pour que notre parole puisse ensuite toucher leur cœur. il me plaît de conclure avec une parole de l'écrivain Bernanos. Dans son roman Monsieur Wynne, Bernanos réfléchit sur le diable, vaste sujet, et il y a cette expression heureuse, le diable, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Eh bien, il me semble qu'en école catholique, pour que nous puissions espérer aider ces jeunes à éveiller leur conscience morale, il faut qu'il y ait sur leur chemin des adultes, c'est-à-dire des amis qui restent avec eux jusqu'au bout. Merci.
Merci de ces trois interventions qui ont été très complémentaires, effectivement, et qui nous renvoie en tout cas sur la dernière, sur notre responsabilité première, et je pense que c'est assez dérangeant pour tout éducateur. Et je pense que là, et du coup, ça me faisait résonner avec l'exemple de l'improviseur que vous citiez, Paul, qui voulait laisser tout à la maison. Je pense que ce type de réflexion la rendrait sans doute très, très malheureuse. Voilà. On fait les questions. Il y a une question de Bordeaux.
Voilà. Ah non, il n'y a pas de question de Bordeaux. Eh bien non, bah Bordeaux, tant pis alors. On va commencer directement avec les questions de Paris, de notre salle. Voilà, comme à l'habitude, on peut prendre deux ou trois réflexions, convictions, questions. On a du temps, c'est formidable, on a des intervenants ce soir qui ont respecté complètement ce qui était prévu, si bien qu'on a le temps pour le débat. Voilà.
Ils nous avaient dit qu'ils étaient habitués à la sonnerie de la cloche.
Voilà, première.
Ah, une première question, c'est peut-être finalement la plus facile. Vous avez beaucoup parlé des enseignants, des parents. Nous voyons bien que le rôle d'éducateur est complexe. L'enseignant est aussi un adulte au cœur de l'école. Vous avez parlé de la spécificité des écoles catholiques et de celles qui le sont moins. Est-ce que vous connaissez des exemples d'établissements, justement, où les parents sont tout à fait partie prenante sur la formation, l'éveil à la conscience morale ? Et enfin, j'aimerais peut-être que vous puissiez préciser, peut-être, monsieur Malard, conscience morale et formation à la conscience collective et à la responsabilité individuelle. Parce que le terme de conscience morale est quelquefois difficile à percevoir, même dans les établissements catholiques.
Merci. On va prendre une deuxième question. Voilà, tout en... presque tout en haut, là. Oui, levez bien la main.
Oui. Vous avez évoqué... le terme de fraternité dans les écoles catholiques. Votre collègue à votre droite a évoqué aussi les beaux mots de liberté, égalité, fraternité dans les écoles publiques. Pourquoi faites-vous la différence ?
D'accord, la question est terminée, merci. Alors, on va prendre une autre question ici.
Il y a l'importance première de la famille et de l'éducation de prendre les enfants tout jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir pour les parents de l'influence à partir des questions annexes qui sont à traiter en dehors du programme classique de l'école ? Est-ce que les parents n'ont pas une chance pour proposer un programme adapté aux valeurs familiales ?
Bien, on peut peut-être s'arrêter là pour l'instant. Il y a déjà, je crois, matière à réflexion. On peut peut-être commencer justement par cette question sur les parents. Voilà, est-ce qu'il y a des établissements où les parents sont partie prenante ? Et puis la question que vous venez d'indiquer sur est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose de plus spécifique aussi ? Je ne sais pas qui a envie d'aborder un peu la question des parents. Merci Antoinette.
Alors, sûrement que dans des établissements publics comme privés, la direction et la vie scolaire met en place une coopération avec les parents, ça doit exister. Hein. Il me semble que le nombre d'élèves joue beaucoup. Dans les gros établissements, c'est quand même très compliqué. L'effet de masse fait que vraiment avoir une concertation avec les parents pour les élèves, c'est plus compliqué. Donc quand on est en plus petits effectifs, c'est déjà plus simple. Et je crois vraiment que dans les écoles catholiques, il y a quand même une vraie coopération avec les parents. Et dans les écoles hors contrat, qui sont de plus en plus nombreuses, comme ce sont souvent les parents qui créent l'école, évidemment, ils sont partie prenante de l'enseignement moral. Donc je vous donnais l'exemple des écoles Espérance banlieue, mais il y en a d'autres. Elles sont aconfessionnelles. Enfin, il y a des écoles hors contrat confessionnelles, mais d'autres aconfessionnelles. Et là, il y a vraiment une vraie réflexion sur cette interaction entre parents et professeurs et direction et éducateurs dans la vie scolaire. Voilà.
Est-ce que vous avez envie d'ajouter peut-être sur la question des parents, André-Pierre ?
Pardon, merci beaucoup. Un propos qui pourrait être un petit peu décalé, mais étant bien d'accord avec Antoinette sur le fond, bien sûr. D'abord, il faut que, quand nous parlons de l'éducation morale, il faut bien distinguer les âges que nous évoquons. Les questions ne se posent pas de la même façon en premier degré, en lycée professionnel, par exemple. Il en va de même de la présence des parents. Et à titre personnel, autant je pense qu'il faut avoir une relation extrêmement confiante avec les partenaires de la famille, autant il n'est pas sûr qu'il ne faille pas respecter ce tiers-lieu qu'est l'école. Non pas pour en faire un sanctuaire, mais simplement parce que le jeune n'a pas besoin d'avoir ses parents et à l'école et à la maison. Et je me demande s'il ne faut pas avoir l'audace de remettre ce tiers-lieu tel que l'ont voulu nos fondateurs, c'est-à-dire à la fois un petit peu en relation mais à distance des familles, en relation et à distance de l'institution ecclésiale pour ce qui est de l'école catholique.
Merci. Oui.
J'ajoute que effectivement, il y a toujours un risque, c'est quand les parents sont trop présents et qu'ils veulent faire la loi à l'école et que du coup, on est embêté pour exercer notre propre métier. Donc évidemment, il y a une coopération, mais à distance, parce que voilà, il y a la famille.
Ce n'est pas si rare que ça.
Non, je ne pense pas.
C'est légitime. Paul, je ne sais pas si vous voulez ajouter sur ce point des parents. Et puis, il y a une question qui vous est aussi directement...
Très rapidement, parce que c'est la troisième question qui m'a quelque peu intrigué. Parce que, à la fois, dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé intéressante l'idée, il me semble que vous avez parlé des choses un peu en dehors des programmes, quoi. Hein. Et alors là, je voudrais relever, pour insister sur l'importance à l'école... des activités collectives, sportives, culturelles, théâtrales, chorales, caritatives, pastorales, qui sont, me semble-t-il, des lieux privilégiés, non seulement pour apprendre à vivre ensemble, mais pour découvrir que l'on peut réussir ensemble. Ça me paraît important, peut-être ai-je trop ciblé le propos, vous m'y faisiez penser, merci, sur dire la conscience morale s'éveille à partir de l'enseignement. J'aurais dû ajouter, et en grande partie aussi, à partir d'activités qui ne sont pas annexes dans cette formation.
Et vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur par rapport à la première question sur la...
Ah oui,
la conscience morale, afin de définir
oui,
peut-être...
Il m'a semblé que votre question est un petit peu difficile à répondre. Est-ce que vous pouvez reprendre vos termes, conscience morale et responsabilité collective et individuelle?
Non, conscience collective et responsabilité individuelle. Parce que la conscience collective donne le sens du bien commun, et la responsabilité individuelle, celui de l'engagement de la personne. Professeur, c'est pour ça que la question est difficile, ça ne se refait pas.
Vous me rajeunissez, mais là il y a tout ce qu'il faut ici. Je ne me situe pas, vous l'avez compris. Hein, c'était les règles du jeu comme représentant de l'enseignement catholique. Je ne le suis plus. Il ne faut jamais gêner les successeurs, et en particulier parfois on dit mon illustre prédécesseur, je veux dire mon illustre successeur, Pascal Balmant. Et par ailleurs, je ne suis plus non plus le professeur de philo que j'étais, et heureusement qu'on a quelqu'un de terrain, hein, ben oui, qui a les élèves aujourd'hui. Alors moi aussi, vous voyez, c'est des réminiscences, hein, parce que là, il y a une bonne dissertation quand même, non, hein? Conscience collective et responsabilité individuelle. Je crois, en effet, alors très rapidement, parce qu'il faut le temps d'autres questions, que bien sûr qu'il est, il est capital d'éveiller à la conscience collective. Je viens de le dire, réussir ensemble. J'étais frappé, il y a encore quelques temps, j'étais au conseil d'administration des scouts et guides de France. J'avais été scout, mais il y a quelques temps, j'ai redécouvert l'importance de faire ensemble. De monter l'équipement d'un camp, la démarche éducative par-delà. Et on pourrait évoquer d'autres mouvements de jeunes. Oui, l'éveil de la conscience collective. Mais c'est toujours l'équilibre, je pense que c'est là-dessus que vous voulez quelque peu m'entraîner, comment trouver l'équilibre entre l'éveil à la vie collective, la participation à la vie collective, et ne pas oublier que j'ai aussi, par l'engagement d'ailleurs, c'était le sens de ma conclusion, par l'engagement avec les autres, à me construire moi-même. C'est-à-dire que le collectif, on peut le souhaiter, c'est le rassemblement d'identités peu à peu clairement découvertes. Sinon, on fait du collectif dilué.
Vous en êtes très bien sorti. Hein, oui. Une question difficile, mais il y a peut-être des ajouts encore sur ma droite, je ne sais pas, Antoinette ou André-Pierre, sur ce point-là, ou... André-Pierre.
En dialogue avec Paul, je pense que, paradoxalement, dans l'enseignement catholique, le lieu le plus important, ce n'est pas le périscolaire pour l'éducation aux valeurs morales, pour l'éducation à la morale, mais c'est vraiment la classe, la cour de récréation. C'est-à-dire que, trop souvent, et j'ai été solidaire de ces options, nous imaginions que c'était à l'aumônerie, comme on disait, au club de théâtre, au club humanitaire, qu'allait se faire la formation morale des jeunes. Et c'est toujours vrai, ça reste vrai. Je pense que notre... petite erreur, et d'avoir de ce fait exclu de facto l'importance du lieu de la classe comme premier lieu de formation et à l'engagement personnel et à la conscience communautaire et collective. Il faut sans doute retrouver ce lieu-là premier, les autres lieux étant non pas secondaires, mais seconds.
On peut peut-être passer à revenir à ces questions de... ces valeurs de fraternité, liberté, égalité. Alors, est-ce qu'il y en a certaines qui auraient plus de place dans l'enseignement public ou dans l'enseignement catholique, ou au contraire, il faudrait davantage ces valeurs dans telle ou telle?
Non, enfin, je me sens que la valeur de la fraternité, elle est présente dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé, et c'est un peu la même, sauf que dans l'enseignement privé, on peut explicitement dire que cette fraternité, elle est dans le Christ. Et donc, ça, on ne peut pas le dire dans l'école publique. Donc voilà, du coup, elle est plus profonde et elle peut être davantage travaillée en ce sens-là. Maintenant, l'éveil de la fraternité, c'est une chose compliquée hein, dans l'école publique. Et je pense que du coup, la réflexion sur la classe et sur l'ensemble collectif qu'est la classe, qui est constitué d'individus qui doivent grandir individuellement, mais qui forment un groupe, là, on a un terrain de réflexion et de pratique de la fraternité. C'est évident, dans l'entraide, dans la solidarité, dans voilà, quand il y en a un qui est malade, on passe le travail, dans la représentation, quand les délégués sont élus et qu'ils parlent au nom des élèves. Voilà, toute cette vie de classe, et c'est vrai qu'on voit, nous, professeurs, nos classes, il y a un esprit de classe, d'une année sur l'autre, les classes ne sont pas les mêmes, parce que les individus ne sont pas les mêmes, et une ambiance particulière, les individus pris les uns côté des autres sont très, très sympathiques, mais l'esprit de la classe n'est pas bon. Et il y a quelque chose d'assez mystérieux encore là-dedans. Voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie pratique là de la fraternité. Et peut-être que nous ne réfléchissons pas assez, nous, professeurs, là-dessus. C'est-à-dire que, bon, nous avons plusieurs classes avec beaucoup d'élèves. Donc, nous venons faire notre enseignement. Et la façon de faire surgir cette fraternité dans la classe n'est pas toujours évidente. Le rôle du professeur principal, là, est important et on a plus ou moins de charisme pour réussir à faire surgir cette fraternité.
André-Pierre.
Oui, la fraternité à l'école, c'est le lieu le plus improbable, hein. Comme l'Évangile. Il faut vraiment être idéaliste pour s'imaginer qu'il est naturel que la fraternité ou l'Évangile pénètre dans une classe et dans un établissement scolaire. Donc nécessairement, la fraternité va être un horizon et une tâche quotidienne, un labeur quotidien. Et c'est grâce à nos élèves les plus enquiquinants, grâce à nos collègues les moins performants, grâce à nos administrations les plus tatillonnes, que nous allons grandir en fraternité. C'est-à-dire que l'enjeu qui est compliqué pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, nos collègues poussent, et nous poussons nous-mêmes, des cris d'orfraie. Il y a une photocopieuse en panne, et c'est la révolution dans la salle des personnels. Or, c'est ne pas comprendre que c'est grâce à ce gamin qui me met la péto en classe, que moi je vais grandir sur ce chemin de fraternité. Et que si moi je ne suis pas fichu du haut de mes 28 ans de grandir sur ce chemin de fraternité, qu'est-ce que je vais demander à ce jeune de le faire? Autrement dit, nous sommes des amnésiques, nous oublions ce qu'est un jeune, nous avons oublié que nous avons été jeunes, et on se retrouve dans une espèce de bulle idéologique que seul peut sauver la présence patiente aux jeunes sur leur lieu de vie, et sur les temps de vie d'une école.
On peut passer à une autre salve de questions.
J'ai une question, sans doute liée. La première question rejoint ce que vous avez dit. J'ai l'impression quand même que le règlement intérieur, le principe même du règlement intérieur, permet aux élèves de savoir ce que c'est qu'une règle de droit et d'une certaine manière être obligé de s'habituer à ce qu'on appelle un examen de conscience, qu'il soit collectif ou individuel. Et la deuxième question, c'est une question peut-être idiote, mais souvent quand on lit un récit en littérature, en économie, en histoire, en géographie, on dit quelle est la morale de l'histoire. Et je me pose la question de savoir si les programmes scolaires actuellement répondent à cette question et finalement apprennent aux élèves quelle est la morale de telle période. Et j'ai l'impression qu'on saucissonne tellement, comme il n'y a plus d'enseignement, je dirais, linéaire, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais on sur le XVIIe siècle, par exemple, on va leur parler de Versailles, et XVIIIe siècle, on va parler de la Révolution. Donc on ne parle plus du tout, vous voyez, il n'y a pas de linéaire. On ne permet pas aux élèves de dire quelle est la morale du 17e, quelle est la morale du 18e sur un plan, sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan philosophique, religieux, politique, artistique, etc. Donc j'ai une interrogation là de parents d'élèves sur cette question de savoir si le contenu des programmes, et là pas de l'EMC, hein, les contenus des programmes permet aux élèves de répondre à cette question, quelle est la morale de l'histoire.
Mon expérience rejoint un petit peu celle de M. Malâtre, bien modestement, et celle de M. Gauthier, parce que j'ai enseigné l'histoire pendant 10 ans au Collège Saint-Jean de Passy, et ce qui m'a le plus frappé dans cet établissement, c'est le rôle absolument fondamental que jouaient les préfets de division. Je crois que cette structure existe aussi chez les jésuites à Franklin. Et le préfet, effectivement, joue un rôle non seulement pédagogique, un rôle au plan des études, mais peut jouer un très grand rôle au plan humain. Et j'ai le souvenir d'un jeune préfet qui n'avait que 23 ans, qui est arrivé à connaître sa division, ce qui veut dire 175 garçons de 15 ans, et il arrivait à les recevoir personnellement dans son bureau, et c'est là que les garçons pouvaient, comme le disait M. Malâtre, montrer le sens de leur quête, quel était le sens de leur vie, et le préfet, s'il avait un bon contact avec eux, arrivait à leur apporter des réponses. Et je pense que cette structure de préfet était très riche, Et c'est un peu dommage qu'elle n'existe pas davantage. Voilà, c'est tout.
D'autres questions ? Là-bas, tout en haut, puis ensuite...
Oui, je voulais simplement, je me posais la question de savoir ce que vous pensez de l'esprit de compétition qui existe dans l'école. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut l'oublier ? Est-ce qu'il faut le conserver ? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux valeurs dont on vient de parler, de, par exemple, de la fraternité ?
Donc, on va peut-être essayer de répondre à ces trois questions. Peut-être une question sur le règlement intérieur. Quel est finalement, est-ce qu'il suffit à permettre de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal?
C'est difficile de répondre. Le règlement intérieur, c'est quand même aussi beaucoup de petites règles pratiques, pas de skate dans l'enceinte du lycée, pas de cigarettes. Donc oui, c'est l'apprentissage du respect des règles et de la sanction quand il y a transgression. Maintenant, c'est souvent long à lire, assez laborieux. On nous demande de faire ça en tant que professeur principal le jour de la rentrée, donc il faut essayer de le faire de manière à pointer les choses vraiment importantes, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça pour conduire les élèves à réfléchir sur la morale. C'est trop précis, c'est trop pratique. Alors c'est important, c'est un premier pas, mais ça ne suffira pas à faire prendre conscience aux élèves de leur comportement moral en général. Voilà.
Peut-être, parce que vous avez abordé tout à l'heure la question, Antoinette, sur un peu la dispersion, enfin, le fait de cantonner l'enseignement ou l'éveil de la conscience morale à une discipline, et tout à l'heure vous nous avez dit qu'en fait il fallait que ça imprègne toutes les disciplines, et je crois que la question là était celle-ci. Est-ce qu'on enseigne la morale de l'histoire dans toutes les disciplines, ou en tout cas l'esprit critique, l'analyse au-delà de la connaissance?
Alors, je ne crois pas que l'idée de tirer des morales des enseignements et des contenus d'enseignement soit dans les textes officiels de programme. Je ne pense pas. Maintenant, rien ne nous empêche de le faire. Le problème, c'est que il faut aussi lutter contre une tendance qu'ont les élèves à juger très rapidement, à partir de leur microcosme culturel, familial, etc. Et donc très vite, ils vont dire « Ah, j'aime pas » ou « Ah, c'est bien, c'est pas bien ». Et justement, tout cet effort de tirer la morale d'une leçon, c'est de le faire avec intelligence et avec un peu de finesse, parce que sinon, c'est très rapidement, je juge, j'aime ou j'aime pas, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et donc finalement, ils passent à côté de ce qu'on essaye de leur apprendre. Donc bon, après, je pense pas que ce soit interdit, c'est une très bonne idée, j'en parlerai avec mes collègues. Mais en philosophie, on fait ça beaucoup, nous forcément, j'essaye toujours, la philosophie, ça peut leur paraître très abstrait, parfois on est dans les concepts, mais j'essaye toujours de leur montrer que en fait, c'est très concret, que ça a une incidence directe, que tel raisonnement, si on le tire à bout, en fait, concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça, ou qu'en fait, on ne peut plus dire ça, et très vite, ils voient que en fait, ça a des enjeux pratiques, sociaux, politiques, directs. Donc ça, en philosophie, je pense qu'on a tout intérêt à le faire pour leur montrer les enjeux concrets, mais dans d'autres disciplines, on pourrait très bien. Je pense qu'en SES, il doit y en avoir aussi qui font ça, en histoire sûrement. Voilà. Il y a une telle diversité d'enseignements et de professeurs que là...
Oui, je commenterai volontiers, à partir de votre question, je crois, madame, comprendre votre souci, à savoir celui d'une certaine dispersion, si je vous ai bien compris, d'autant plus que l'enseignement, même en histoire, parfois, ou en littérature, n'est pas chronologique, comme vous le disiez, selon les établissements, selon les enseignants. Et de fait, on peut avoir l'impression de pointiller, et pas d'une ligne directrice. Moi, je crois que l'une des réponses, elle est, d'abord, dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire comment, par exemple, je parle un peu d'expérience quand même, on peut avoir de temps en temps des cours communs entre philosophie et économie. Vous voyez les questions qui peuvent surgir. Comment on peut avoir des cours communs ou des travaux communs entre histoire et éducation artistique, etc. L'interdisciplinarité. Il y a quelques années, quand j'étais secrétaire général, un chef d'établissement a eu la très bonne idée de me dire, vous qui écrivez sur l'éducation, venez donc passer une journée dans mon collège en prenant le rang à 8 heures du matin et en suivant tous les cours avec les élèves jusqu'à 17 heures le soir. Vous voyez, j'en suis encore marqué. J'étais assis à côté d'une élève, elle était un petit peu gênée, remarquez-moi aussi. Hein, et c'était plus ou moins naturel, j'avais dit discrètement, puis il y avait Ouest-France qui était venu, passons. Ce que j'en avais retenu, c'était en effet le compartimentage. Les consignes des professeurs, qui peuvent parfois ne pas être tout à fait apparemment concertées sur la répartition, etc. Et surtout, mais pas seulement à partir de cette expérience, mais plus largement, je pense que nous, dans l'enseignement public comme dans l'enseignement catholique, nous ne nous donnons pas suffisamment de temps en équipe éducative pour travailler à ce mot qu'a employé plusieurs fois André-Pierre Gauthier, la cohérence. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un professeur de son côté va essayer d'éveiller la conscience morale, un autre dans une autre discipline. Si vous me permettez ce mot, il faut se mettre d'accord sur une anthropologie. C'est-à-dire, dans notre établissement, quel sens de la personne ? Et quel sens de la relation entre les personnes nous voulons développer? Et à partir de là, les contenus d'enseignement doivent être colorés à l'aune de cette anthropologie. Quand je disais qu'on n'en avait pas assez de temps, et puis là je m'arrêterai vite après, parce que j'enchaîne avec une autre observation, pour vraiment des temps de travail, de réflexion en communauté éducative, en lien avec les parents, peut-être aussi n'avons-nous pas assez de personnes, comme vous l'évoquiez, madame, comme les préfets de division, par certains côtés qui ont un rôle, entre guillemets, gratuit, d'écoute, de conseil. Oh, le préfet de division, c'était une excellente idée, puis je crois bien que ça a été inventé par les jésuites. Bon, mais, et par d'autres, peut-être par les frères des écoles chrétiennes. Non, bon. Mais, au-delà de leur rôle et de ce que vous en avez dit, madame, je me permets d'élargir votre propos à, comment dire, l'inventivité dont nous devrions faire preuve pour que dans un établissement scolaire prenne du sens le mot éducateur. D'abord en chaque enseignant, qui est forcément éducateur, mais aussi quels choix, même budgétaires, sont faits pour cette, entre guillemets, gratuité.
Est-ce que vous voulez intervenir sur ce thème ?
Oui, je peux peut-être préciser deux choses, une négative et une positive sur l'enseignement public. Le point vraiment négatif qui m'a effarée quand je l'ai découvert il y a quelques années pour les écoles primaires publiques, c'est le très peu de moyens donnés à la direction. C'est-à-dire qu'en fait, le directeur d'école ou la directrice de l'école est un professeur qui a une décharge d'une ou deux journées pour gérer tout ce qui est administratif et pour justement créer cette fraternité, ce projet collectif. Il me semble que c'est absolument insuffisant. Et pour voir ce qui se fait dans le privé sous contrat ou hors contrat, là, il y a un directeur, une directrice qui ne fait que ça et qui, justement, permet cette cohésion entre les professeurs qui est absolument indispensable. Donc là, je pense qu'il y a un vrai manque de moyens dans l'école primaire publique. Alors, selon le charisme du directeur ou de la directrice, ça peut bien se passer, mais il y a des cas où c'est une catastrophe, du coup. Les professeurs sont vraiment éclatés, il n'y a pas de vraie cohérence dans les sanctions, dans le règlement, dans le projet d'école, enfin, c'est assez dramatique. En revanche, il y a un point, à mon avis, qui peut être très positif. Je pense que c'est la même chose au primaire ou au collège, mais en tout cas, moi, au lycée, je le vois. C'est, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur le règlement intérieur, c'est le projet d'établissement. Nous n'avions pas dans mon lycée de projet d'établissement depuis quelques années et nous avons décidé de le rédiger ensemble. Et ça a été très intéressant de voir les contributions de chacun. On a fait des commissions pour choisir quels étaient les 3-4 grands axes de notre action au lycée. Et là, on a pu justement commencer à construire une fraternité entre professeurs, avec les membres de la vie scolaire, avec la direction, pour choisir ensemble les priorités qu'on voulait donner à notre lycée. Et on est en train de le voter, de le mettre en action. Et je pense que là, ça va sans doute permettre de changer pas mal de choses, ou au moins d'avoir donné une cohérence à des choses qui existaient déjà, mais qu'on ignorait parce qu'on était compartimenté, parce qu'il n'y avait pas de but collectif. Là, on a posé vraiment un projet, et je pense que cette obligation pour les lycées de rédiger un projet d'établissement et de le réactualiser tous les 3 ou 4 ans, c'est une très bonne chose pour créer cette fraternité et cette collectivité dans le but du bien commun.
La question sur la compétition, qu'il ne faudrait pas oublier, est-ce que à l'école, l'accent mis sur les résultats, l'évaluation, est-ce que ça contrarie le projet de fraternité? André Pierre, peut-être.
Ça peut le rendre vain, ainsi que l'annonce de l'Évangile. Mais en même temps, il ne faut pas grossir les affaires. Quand on est dans le milieu, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont beaucoup de bon sens. Alors les jeunes, qui relativisent pas mal, et les adultes, s'ils veulent tenir, il leur faut bien acquérir ce bon sens. Ce qui veut dire qu'en fait, ça bouge bien. Je crois qu'actuellement, sur toutes ces questions qui sont des questions sensibles, comme la compétition, l'élitisme, en tout cas pour l'enseignement catholique, ça bouge plutôt pas mal. Et nous y sommes aidés fortement par certaines réformes. Je crois que c'est l'occasion de dire ce soir, à rebours de ce que l'on entend parfois, que tout ne va pas plus mal qu'avant. Je pense que dans cette assemblée, nous sommes un certain nombre à penser que tout compte fait, ça va plus mal qu'avant. Soyons honnêtes, c'est pas vrai. Et avoir cette posture-là, ce serait à rebours de notre thème de la soirée. Comment peut-on éveiller la posture morale des jeunes si nous-mêmes nous sommes convaincus que tout va à volo? Bon, donc sur cette question de la sélection, pour y revenir, ça va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que tout ce qui, dans les réformes actuelles, met l'accent sur la pédagogie qu'on appelle coopérative ou collaborative, ce qui fait que l'on invite les jeunes à travailler ensemble, on invite les enseignants à faire travailler les jeunes ensemble et à mettre en cohérence, en cohésion, leur qualité propre à travers différents travaux qui sont évalués d'ailleurs pour les examens officiels, ça va vraiment dans le très bon sens. Alors c'est toujours très lent, évidemment, il y a toujours des établissements qui ne jouent pas le jeu, il y a des collègues qui ne jouent pas le jeu, et puis après, nous savons très bien que les premiers à s'évaluer très très sévèrement, ce sont les jeunes. Donc c'est tout un combat pour apprendre aux jeunes que quand on rend la copie à Tartempion, ben on l'a rendue à Tartempion, on ne l'a pas rendue à la classe entière. Donc ne dis pas combien tu as, et surtout si c'est une bonne note. Voilà, tu gardes ça pour toi. C'est toute une éducation. Oui, ça passe par ces petites choses-là. C'est très long, mais en même temps, il ne faut pas grossir. Ça se passe mieux que les discours ne le laissent entendre.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur la compétition avant qu'on reprenne peut-être une dernière salve de questions?
Oui, j'irais bien dans le sens, l'intuition un peu d'André Pierre. Il me semble, bon, il faut être prudent, parce qu'il ne faut pas généraliser, qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement catholique, et puis de plus en plus de parents sont conscients que la compétition, au sens primaire du terme, pourrait être une sorte de gaspillage d'énergie. Ce qui n'exclut pas l'émulation, c'est autre chose. Et j'ai l'impression qu'on se rend de plus en plus compte qu'une école de qualité est une école qui permet à tout enfant et à tout jeune de développer le maximum de ses potentialités, en termes évangéliques on dirait maximum de ses talents, quelles que soient ses capacités de départ. Il me semble que là-dessus, oui, il y a une évolution. Et que, je l'ai encore perçu, et j'étais la semaine dernière en Guadeloupe pour un grand colloque de l'enseignement catholique, et une de mes phrases qui est le mieux passée alors qu'elle passait plus ou moins bien il y a 4-5 ans, je me permets de le dire sans présomption, elle est toute simple, c'est de dire attention, chers amis enseignants, si nous ne réussissions qu'avec ceux qui auraient de toute façon réussi, ou qu'ils soient dans l'enseignement catholique, dans l'enseignement public, quel mérite aurions-nous ? Mais, attention, sans laisser tomber ceux qui auraient de toute façon réussi, parce qu'ils ont toujours aussi à progresser, ce qui rend le côté passionnant de l'acte éducatif et de l'enseignement, c'est d'essayer de faire réussir ceux qui auraient pu ne pas réussir. Eh bien, je crois que ça, je vous le dis, ça passe mieux qu'il y a quelque temps.
Merci. Alors, on va prendre peut-être encore une ou deux dernières questions. Je vais poser la première, parce que j'aurais voulu aller dans le sens de ce que vous avez dit à l'instant, où vous avez évoqué que parfois, d'une certaine manière, toutes les réformes qui étaient faites, on pouvait peut-être être un peu critique sur ce qui était proposé. Ces thèmes, ces questions, ces enjeux que nous abordons ce soir, et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des choses assez fondamentales et importantes qui sont évoquées ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles travaillent vraiment en profondeur aussi eh bien, vos collègues, ou bien ils sont un peu le nez sur le guidon et ils n'ont vraiment pas le temps de se poser ces questions-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont travaillés, repris, dans les syndicats enseignants, par exemple, et puis au plus haut niveau, au ministère, est-ce que c'est vraiment des enjeux, vous avez le sentiment, oui, c'est vraiment au cœur de ce qui est réfléchi. Je peux peut-être laisser, et puis après on prendra deux questions.
Moi je crois profondément que oui. Je pense que depuis quelques années, depuis les événements que nous connaissons, il y a une espèce d'inquiétude profonde des enseignants, des personnels, qui sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on a raté quelque chose ?» Parce qu'en définitive, on sent bien, avec une acuité plus forte aujourd'hui, qu'il se passe dans l'école. Antoinette l'évoquait tout à l'heure, enfin, ce qui se vit dans l'école ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur la croissance des jeunes. Alors, où est-ce qu'on a un peu raté nos affaires? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'il faut que nous approfondissions pour être fidèles à notre mission? Et je crois que ça, c'est vrai maintenant à tous les niveaux, aussi bien au niveau du ministère, on le voit avec les réformes et les orientations nouvelles, mais on l'entend aussi maintenant dans les salles des personnels. On commence à sentir que la question éducative, la question pas seulement citoyenne, la question éducative, faire l'homme, comme disait Paul, quelle anthropologie, quelle conception de l'homme, ça commence à toucher un peu les équipes éducatives et enseignantes.
Oui, c'est vrai. Hein. Au moment des attentats, les collègues étaient bouleversés de voir que ces jeunes étaient passés par l'école. Hein. Mais du coup, ça fait aussi mal. Enfin, ça met le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a manqué, nous, pas seulement dans l'enseignement, dans les structures scolaires, mais nous, en tant que personnes, comment est-ce qu'on peut remettre en question notre propre comportement pour essayer d'être le plus cohérent possible. Moi, j'ai le souvenir qu'on avait eu des réunions pour en discuter, pour essayer de voir ce qu'on pouvait améliorer, etc., et que ces réunions nous ont peut-être fait du bien, mais que ça n'avait pas débouché sur grand-chose non plus. C'est-à-dire que, en fait, ça remet tellement de choses en question, des choses qu'il faut remonter très haut, hein, c'est pas seulement dans chaque lycée, mais il faut parfois revoir l'organisation des établissements, etc., qu'on s'est senti finalement un peu impuissant, et finalement, on a recommencé comme avant, et puis on essaye individuellement d'être plus cohérent, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup, beaucoup de changements. Donc là, c'est vrai que c'est pour l'instant encore flottant, parce que c'est une interrogation profonde qui ne trouve pas encore de réponse, que nous venons souvent avec nos propres opinions, nos propres convictions très différentes dans le public, et que finalement, quand nous commençons à discuter d'éducation, on se rend compte que nous ne sommes pas d'accord. Donc voilà, c'est à mon avis une vraie question qui habite les professeurs, mais qui est loin d'être réglée, hein, qui est vraiment délicate.
Merci. On va prendre deux dernières questions tout en haut. Question oui, question brève si possible, et après il y aura des réponses brèves aussi.
Alors je vais essayer qu'elle soit brève. En fait, ce n'est pas ma question, mais celle de quelqu'un qui nous écoute depuis Lyon et qui n'arrivait pas à vous envoyer la question par les canaux prévus. Donc, il me l'a envoyé par mail.
Très bien. Donc, c'est Bordeaux, c'est Bordeaux qui...
C'est Lyon, je crois.
Ah, Lyon. Ah, ce n'était pas prévu, mais on accueille Lyon avec plaisir.
Alors, je crois qu'elle s'adresse plus particulièrement à André-Pierre Gauthier. Il y a une foi excessive dans les discours, comme si le discours lui-même pouvait former, c'est ce que vous avez dit. Mais ne trouvez-vous pas aussi qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la foi affichée par la réforme de juin 2015 dans la discussion, comme si la moralité d'une conviction se mesurait à sa capacité à être formulée, et comme si la moralité d'une personne se limitait à la capacité d'entendre le point de vue des autres.
Et... Alors, oui, vous allez relire, hein, Marine, pour qu'on puisse tous, nous, on n'est pas aussi brillants que celui qui a posé la question.
Est-ce que c'est moral parce que c'est formulé ? Est-ce que c'est moral, est-ce qu'on est moral parce qu'on écoute l'autre ? Voilà. Est-ce que l'attention n'est pas plus sur la procédure, finalement, que sur le contenu ? Si, j'espère ne pas déformer la question.
Merci beaucoup. Une deuxième question, une dernière, la toute dernière. Dominique, oui.
Oui, non, simplement, en disant que les choses n'étaient pas pires aujourd'hui qu'elles n'avaient été, etc., et c'est vrai que c'est une attitude qu'il nous faut toujours avoir, de relativiser ce qu'on imagine comme l'Eldorado d'avant, je me demande quand même que sur cette question de conscience, de forme, d'éveil à conscience morale, c'est la plus grande diversité des élèves, de leur culture et de leur religion, de leur... Est-ce que ça ne complique pas cette tâche-là, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, Antoinette, et je trouve qu'on n'a pas vraiment abordé, si je ne sais pas.
Bah bien sûr, c'est évident que quand il y avait un socle commun assez évident, la question de la morale était moins problématique, parce que personne ne se sentait choqué par les règles ou les principes qui étaient énoncés à l'école. Aujourd'hui, les évidences sont beaucoup moins partagées. Soit il n'y en a pas eu du tout, il n'y a pas eu d'éducation vraiment à la maison, soit il y en a une, au contraire, très ferme, très cohérente, très, très solide, mais qui n'est pas toujours exactement celle qu'on pense être pourtant la morale universelle républicaine. Et donc là, on est obligé de s'interroger sur la question de l'universalité de la morale, et sur la relativité des cultures, etc. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive simplement à défendre la procédure, la capacité à dialoguer, à écouter les autres, parce que c'est finalement ce qu'on arrive à justifier le plus possible pour permettre que chacun puisse évoquer son point de vue, mais c'est sans doute insuffisant. C'est sans doute insuffisant quand il y a trop d'écart entre certaines pratiques morales ou certains principes, ça c'est sûr.
André-Pierre.
C'est sans doute une possibilité qu'a l'enseignement catholique aujourd'hui de réformer l'acte éducatif de l'intérieur, parce que l'enseignement catholique peut se référer paisiblement à une source, à une conception de l'humain, à un fondateur, au Christ, et que ce christianisme ayant cette force originale de proposer un modèle culturel de vie individuelle et de vivre ensemble, c'est une chance pour l'enseignement catholique de retrouver ce fondement. Et à condition de ne pas en faire de nouveau un discours idéologique, c'est-à-dire de le retrouver comme un lieu de critères pour nos propres pratiques éducatives. Donc là, incontestablement, pour l'enseignement catholique, il y a quelque chose qui va bouger ou qui pourrait bouger de façon assez profonde, et on n'en resterait pas à la question procédurale, mais on serait vraiment sur ce qui fait le sens même de nos, ce qui donne vie à nos critères moraux. Cette question me paraît une chance pour l'école catholique d'abord et peut-être aussi après pour l'enseignement public, même si en effet je vois moins bien comment aujourd'hui l'enseignement public pourrait se contenter, je dis bien se contenter, des valeurs républicaines pour créer une nouvelle cohésion sociale dans les temps qui sont les nôtres. Il me semble que c'est insuffisant. Et 15 secondes encore.
Oui.
J'ai pris conscience de cela plus récemment depuis que je suis en Seine-Saint-Denis, où nous voyons arriver dans nos établissements scolaires des communautés d'origine, des jeunes de tradition hindoue, musulmane en particulier, qui ont en famille des valeurs très fortes. Et en fait, nous sommes interrogés par ces valeurs fortes qui arrivent dans l'école, dont nous sentons les chances et les limites, Et de ce fait, nous ne pouvons pas passer à côté d'une réinterrogation de la manière dont nous-mêmes, nous fondons nos valeurs, nous fondons notre projet, parce que ces jeunes-là et les adultes qui partagent ces cultures ont besoin d'avoir en face d'eux une autre culture qui fasse cohésion dans l'école catholique, mais que cette culture doit nécessairement arriver à dire son fondement. Elle ne peut pas en rester simplement à des concepts qui sont un petit peu parfois éculés.
Paul, un mot de fin aussi.
Bon, tout a été dit, bien dit, je trouve, déjà. Je dirais, oui, cette diversité actuelle d'origine culturelle, religieuse, à mon avis, ne modifie pas le positionnement de l'école, même si cette diversité rend plus complexe encore la question de l'éveil à la conscience morale, mais je crois qu'il faut redire que l'école n'est pas un libre service, qu'elle soit publique ou catholique, n'est pas un libre service de valeurs qui pourrait conduire à une sorte de relativité ou de syncrétisme. C'est-à-dire, ben nous sommes divers, il faut comprendre l'autre, ça c'est vrai. Mais plutôt d'en tirer la conclusion, tout se vaut. Et je crois que cette diversité croissante des origines des élèves fait que tout établissement scolaire, si j'ose dire, doit être clair sur sa colonne vertébrale.
Voilà, nous allons rester là. Je voudrais remercier en votre nom nos invités ce soir qui, je crois, nous ont bien aidés à repérer ce qui était véritablement en jeu, et on voit bien que nous aurons à continuer à réfléchir à ces questions. Cela lance bien aussi, je crois, notre année des soirées d'éthique publique. Cela introduit aussi la prochaine, parce que je crois qu'un tel thème de l'éducation, c'est bien un thème éminemment politique au sens noble du terme. Donc je vous rappelle la soirée du mardi 8 novembre, la seconde soirée d'éthique publique de l'année sur le thème « Quelle parole des chrétiens est possible dans le débat politique ?» Et puis je vous rappelle aussi que pour continuer la réflexion sur l'éducation, eh bien il suffit que nous nous retrouvions aux prochaines semaines sociales de France qui auront lieu les 19 et 20 novembre prochains sur le thème « Ensemble l'éducation à la porte de la Villette ». Vous aurez les tracts à votre sortie, ainsi que des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation à la soirée. Merci de votre fidélité et bonne soirée.